une usine solitaire perdue dans un champ qu'un chemin vaseux rend difficile d'accès. Ce souvenir illustre bien les débuts modestes, pour ne pas dire languissants, du parc industriel et portuaire de Bécancour. Une scène qui contraste avec l'effervescence soudainement suscitée après plusieurs années de flottement par le développement de la filière batterie. L'ambition de ceux qui ont mis au monde cette créature gouvernementale s'est longtemps heurtée à l'incrédulité populaire. Retour sur la genèse du plus grand parc industriel au Canada. La venue à Bécancour d'un parc industriel est un peu un prix de consolation. C'est l'endroit choisi par le gouvernement libéral de Jean Lesage au début des années 60 pour implanter son immense projet de sidérurgie québécoise Sidbec. Par le biais de la Société générale de financement, il demande au Trust général du Canada de faire l'acquisition des terres. Jean-Guy Dubois, qui plus tard allait devenir maire de Bécancour, a vécu cette opération de près.
C'est des ventes de gré à gré. Personne d'exproprié. Parce qu'il offrait un bon montant qui était 200 pièces l'arpent dans le temps. Ça s'est fait dans la maison chez nous. J'ai encore la carte originale, personnellement, dans un plastique à la maison, qui a servi pour ce Trust général du Canada qui avait eu le mandat d'acheter les terres. Puis ils se sont retrouvés chez nous avec mon père, puis c'est mon père qui a pu gérer tout ça parce qu'il connaissait tout le monde, puis il connaissait toutes les configurations des terres, puis tout ça.
C'est l'euphorie chez les résidents qui rêvent de prospérité. Ce qui arrive à Bécancour est providentiel, dira le curé Auguste Beauchesne, qui, en janvier 1964, célèbre une grand-messe d'action de grâce. On pense alors que la sidérurgie sera salutaire pour cette paroisse, vouée à une mort lente après une décennie d'exode rural.
Bécancour deviendrait, avec 10 000 de population, Bécancour, le village, 10 000 de population, c'était incroyable. Tout le monde était un peu fou.
Or, le projet s'avère coûteux et le gouvernement Lesage doit réduire ses ambitions. Et puis, en 1966, l'élection inattendue de l'Union nationale de Daniel Johnson Père mettra un terme au grand rêve. Confronté à une nouvelle conjoncture, il brise sa promesse de poursuivre le projet à Bécancour. Il décide de consolider l'aciérie de Contrecoeur en achetant Dosco et en la fusionnant avec Sidbec. Mais que faire de ces 7650 acres de terre payés trois fois leur valeur de l'époque auprès de 96 fermiers qui comptaient sur Sidbec pour assurer l'avenir de leurs enfants? L'exode s'intensifie. De plus, la croissance escomptée avait justifié en 1965 la fusion de 11 municipalités pour créer la ville de Bécancour. Les protestations sont vives. 250 personnes accompagnent le maire El Gaston Godette à Québec en juin 1968 pour confronter Daniel Johnson. Il ne recule pas, mais reconnaît avoir un devoir moral envers Bécancour. Il promet donc un parc industriel. Ainsi fut créée en décembre 1968, quelques mois après son décès, la Société du parc industriel du centre du Québec, qui rachète toutes les terres. Quelques années s'écouleront avant qu'une première usine entre en opération. Des projets comme ceux de Glaverbel ou encore Falcon Bridge, annoncés en 1970 par le premier ministre Robert Bourassa lui-même, susciteront des espoirs, mais ne verront jamais le jour. La première entreprise étrangère à véritablement s'implanter à Bécancour sera la société française Biragui et son promoteur Julien Lauzier. Mais il sera bien seul, comme le rappelle Jean-Guy Dubois.
Pour se rendre à son usine, là, qui s'appelait Biragui, là, tu restais pris. Parce que c'était en plein champ, c'était boiteux, puis bon... Alors, il a opéré là-dessus. C'est devenu une farce.
Pour en attirer d'autres, des investissements majeurs sont réalisés dans les infrastructures du parc. Le quai, l'autoroute 30 et de nouvelles rues. Ces efforts donnent des résultats en 1974 avec l'arrivée des CIL, SKW, Didier et Ceramco. Si cette dernière s'avère un feu de paille, les autres traverseront les décennies sous d'autres noms. Mais le milieu des années 80 marque un point tournant. Bécancour est le théâtre du plus gros investissement privé jamais réalisé au Québec jusque-là, celui de la construction de la luminerie de Bécancour au coût $1,650 million, 3,9 milliards en dollars d'aujourd'hui. Les sceptiques sont alors confondus, selon Maurice Richard, qui à cette époque était maire, avant de devenir député.
Avant l'arrivée de la luminerie, il y a toujours quelqu'un qui disait « c'est de la fumisterie, c'est de la foutaise, ce parc-là va fermer un jour ». Mais quand la luminerie est arrivée, au-delà de 1 000 emplois, investissement majeur, partir de là, c'est-à-dire le parc, il est là pour se développer.
La multinationale pavera la voie à d'autres pendant deux décennies avec l'arrivée des Canada Oil Forge, OxyChem, Hydrogénal, Reynolds et Petresa. Il y a aussi Norsk Hydro en 1986 qui s'éteindra 20 ans plus tard. Les années 2000 et 2010 sont plutôt léthargiques. Les annonces sont nombreuses, mais peu se concrétisent. Mais voilà qu'au début de la décennie 2020, pendant que le monde se relève de la pandémie, le parc connaît un nouveau départ. Les gouvernements Legault et Trudeau déroulent le tapis rouge et allongent les dollars pour attirer à Bécancour des multinationales pressées de produire des composantes de batteries pour véhicules électriques.
Donc, je suis fier d'annoncer officiellement que GM et POSCO, sous le nom Ultium, vont investir 600 millions pour la première phase, donc, d'une usine qui va faire des cathodes.
Il va y avoir une partie de Bécancour dans tous les véhicules de GM qui vont rouler en Amérique du Nord. Parce que, oui, je pense qu'on peut se dire ça, c'est quand même... c'est pas rien.
Si tous ne partagent pas cet enthousiasme du ministre fédéral François-Philippe Champagne et critiquent les investissements gouvernementaux dans la filière batterie, c'est à une vitesse spectaculaire que des chantiers sont lancés. La société du parc sent même le besoin de l'agrandir en achetant les terrains du parc industriel La Prade près de Gentilly. PDG pendant 10 ans de la société du parc industriel et portuaire de Bécancour, pour lequel il agit encore comme conseiller, Maurice Richard peut témoigner que c'est du jamais vu.
C'est exceptionnel. Et on parle de milliards dans certains cas de planification à court terme. Les usines à Bécancour veulent produire en 2026-2027. C'est demain matin. Et les bâtisses sont en train de sortir du sol, des 12 étages, l'équivalent de 12 étages de haut, là, GM. Ford va être à peu près la même chose en face. Là. Ce qui se passe à Bécancour, c'est unique au Québec. C'est pas une révolution, mais c'est prêt, là.
Après un parcours de plus de 50 ans parsemé d'optimisme et de déception, cette nouvelle économie ouvre des horizons dont on a encore du mal à entrevoir les limites.
Cette capsule historique est une production de VIA 95. Entrevue, recherche, montage et narration, Jocelyn Ouellet. Collaboration à la production et à la diffusion, Éliott Tousignan, Justin Savard, Philippe Saint-Pierre et Louis-Martin McCardle. Merci à nos partenaires dans la production des capsules, la Société acadienne Port-Royal, Wabanaki, anciennement connue sous le nom du Grand Conseil de la Nation Wabanaki, le projet d'accueil et d'intégration solidaire, la Société d'histoire et de généalogie Lévrard-Bequet et Patrimoine Bécancour. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.